contrôle du parti, on le voit bien à Paris où la campagne a déjà commencé. Tout cela va donc durer tout un hiver, tout un printemps, puis un été, autant dire que le principal parti d'opposition sera tout entier absorbé par lui-même. Cela veut-il dire que cette UMP décrochée des réalités décrochera aux élections ? Pas forcément. En politique, tout le monde le sait, bien des victoires sont le résultat de la défaite des adversaires. Et de ce point de vue, l'opposition fait toute confiance au pouvoir.
L'édito politique d'Hubert Vertas. Merci Hubert. Et à demain, la météo pour terminer avec encore de la pluie et du vent au nord, alors que le sud aura droit à du soleil. Les températures, 2 à 10 degrés pour les minimales, 11 à 20 pour les maximales. Voilà, 8h10, on retrouve Christophe Bourseiller.
Merci Marie-Hélène Duvigneau. Rendez-vous avec vous maintenant à 9h pour un autre journal. Alors dans quelques minutes, dans 5 petites minutes, je reçois aujourd'hui Guillaume Kosmicki. Guillaume Kosmicki, certes, il est musicologue, certes, il est l'auteur d'un livre passionnant qui s'appelle « Musique savante » de Debussy au mur de Berlin, qui vient de sortir aux éditions Le Mot et le Reste. On va parler avec lui de cette idée curieuse des musiques savantes, mais c'est aussi quelqu'un qui revient de loin, puisqu'il a été, il est toujours d'ailleurs protagoniste de cet univers passionnant des free parties. Donc comment peut-on aller de l'un à l'autre? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, mais on en parlera avec lui. D'abord, c'est l'heure du morceau contemporain. Aujourd'hui, je vous propose une pièce de Peteris Vasks. Pardon, j'ai du mal à prononcer, pourtant c'est un merveilleux compositeur, compositeur letton, proche d'Arvo Pärt par certains aspects dans sa démarche esthétique. On écoute tout de suite une pièce, le message de Tom Tit, interprété par le chœur de la radio lettonne, dirigé par Sigvard Sklava.
Oh!
Message de Tom Tit, un extrait du message de Tom Tit de Péteris Vasks, interprété par le chœur de la radio lettonne dirigé par Sigvard Klava, donc Péteris Vasks, compositeur letton qui a beaucoup travaillé, notamment avec Gidon Kremer, qui a aidé à populariser sa musique. Il est 8h15, vous écoutez France Musique. Bonjour Guillaume Kosmicki.
Bonjour.
Ou plutôt devrais-je dire bonjour Tournesol, parce que Guillaume Kosmicki, vous êtes musicologue, vous êtes l'auteur de nombreux livres. Là, vous venez nous voir avec un livre très sérieux qui s'appelle « Musique savante de Debussy au mur de Berlin, 1882-1962 ». Mais vous êtes aussi l'auteur de « Free Party, une histoire des histoires »,« Musique électronique des avant-gardes au dance floor ». Et vous-même, vous êtes un drôle de personnage, car vous avez une double vie. Alors, c'est quoi votre double vie ?
Oh, si j'en avais qu'une double !
Ah bon ?
Non, c'est... Enfin, disons que effectivement, ça peut sembler peut-être un petit peu schizophrénique ces grands écarts entre les raves et les nuits de folie dans la boue devant des sound systems. Et puis effectivement, ce genre d'esthétique que je traite dans ce dernier ouvrage, mais disons que moi j'y vois en tout cas un plaisir pour la musique, une passion pour la musique, une passion pour en parler, pour en écouter. Et avant tout, c'est ce qui me fait m'intéresser à tous ces courants. Ça serait vraiment dommage de se refuser ces plaisirs.
Alors c'est plus qu'un intérêt, c'est une pratique, parce qu'il faut expliquer que vous êtes violoniste dans l'orchestre de chambre de Vannes.
Absolument.
Mais vous êtes aussi musicien, vous faites des musiques électroniques, c'est vous qui sonorisez les dance floors sous le nom de Tournesol.
Ah, ça m'arrive, oui, j'ai fait des lives assez longtemps. Disons que quand j'étais étudiant en musicologie, donc à Aix-en-Provence, en 1995, donc j'ai commencé dans mon cursus à aborder la phase recherche, je rentrais en maîtrise alors, et c'est vrai qu'un professeur, c'était Jean-Marie Jaconneau qui nous parlait beaucoup de sociologie de la musique, qui nous parlait de hip-hop, de rock, etc. Avait été assez sensible à ma description que j'avais fait d'une découverte l'année précédente, en fait, les raves, qui en France étaient assez émergentes. Hein, ça faisait vraiment très très peu de temps que c'était là. Il avait été assez fasciné par la description que j'en avais faite et il m'a tout simplement conseillé, pourquoi pas, de tourner mes recherches, de les axer sur ce sujet-là. Et je l'ai fait avec grand plaisir. Donc du coup, j'ai effectivement pris la casquette de chercheur sociologue de la musique, puisque j'ai fréquenté ces fêtes en teufeur. C'est vrai que j'étais j'avais 20 ans, hein, donc c'était pour moi vraiment une belle découverte. Comme on a 20 ans, on est toujours emballé par ce qu'on découvre musicalement, ces émotions très fortes qui véhiculent dans ce genre de fête, quelle que soit l'esthétique d'ailleurs qu'on rencontre à nos 20 ans. Il y a toujours un souvenir qui est indélébile. Et puis j'ai pris la casquette de chercheur en même temps. Et quand on est, c'était plus de l'ethnomusicologie quasiment, hein, puisque j'allais dans des territoires un peu inexplorés, même si c'était pas très loin de chez moi, quand on est ethnomusicologue, une pratique qui est presque fondamentale, c'est aussi essayer soi-même de pratiquer la musique sur le terrain. Et assez vite, j'ai laissé un petit peu de côté mon violon, ma guitare, et puis j'ai emprunté la voix des instruments électroniques et je me suis mis effectivement aussi à jouer dans ce genre de rassemblement, ce que j'ai fait depuis 97, 18 et les années suivantes jusqu'à aujourd'hui.
Alors là, vous continuez, c'est une bonne chose. Guillaume Kosmicki, vous venez nous voir pour un livre qui s'appelle « Musique savante ». Alors ça, c'est un terme très déplaisant, les musiques savantes. Vous dites vous-même que c'est presque un terme de classe.
C'est un des points que j'aborde effectivement quand je parle. Alors c'est une obligation, c'est un terme qui donne des frissons dans le dos, j'en conviens tout à fait.
On a l'impression qu'il y a un mépris pour les musiques populaires.
Et oui, et pourtant vous voyez par mon parcours que j'ai absolument pas ce mépris, puisque j'y ai consacré des années de ma vie à ces musiques populaires, dites populaires. Mais disons que je n'ai pas trouvé de meilleur terme pour parler de ces esthétiques que j'aborde dans ce livre.
Alors vous les définissez. Vous décrivez les musiques savantes, parce que vous dites certes, la notion de classe et d'élitisme n'est jamais étrangère à celle de musique savante, mais après finalement, vous dites, et en fin de compte, les premières musiques savantes, elles remontent à l'an 800. Pourquoi ?
Eh bien en fait, c'est le moment où en Occident, on a commencé à consigner la musique par écrit. Donc j'en explique effectivement l'anecdote politique, historique. C'est une alliance entre le pouvoir carolingien, nouvellement arrivé, bien sûr, c'est une sorte de coup d'état l'État qui s'est manigancé, et une alliance donc avec la papauté, donc pour avoir en fait une caution religieuse auprès du pape. Charlemagne, ses prédécesseurs avaient donc mené une alliance comme ça avec cette papauté, et en gage de confiance, ils avaient affirmé qu'ils répandraient dans tout leur empire, dans tout le territoire, la bonne musique, la musique de la liturgie
forme d'écrit.
Romaine, absolument, qu'il a fallu à ce moment-là consigner par écrit, et finalement c'était un geste simplement de conservation et de diffusion, et c'est devenu un geste esthétique de fabrication, véritablement, de la musique au cours des siècles qui ont suivi.
Alors vous dites qu'il y a effectivement deux musiques, une musique populaire et puis qui n'est pas écrite finalement, qui
absolument.
Se transmet oralement,
tradition orale.
Et puis une musique donc écrite, mais vous faites remarquer qu'il y a des tas de structures de transfert, c'est-à-dire par exemple les marches militaires, les orphéons, ça existe ça aussi.
Disons qu'au cours des siècles, alors il y a eu des moments où ces musiques dites savantes, donc écrites, étaient dans une sphère extrêmement séparée, conservée, différenciée de la musique populaire transmise par l'oral, et d'autres moments dans l'histoire, par exemple à la Renaissance, ça a été un petit peu le cas, et au 19e siècle évidemment, il y a eu ces fameuses structures de transfert qui ont permis effectivement des passages de plus en plus nombreux entre les deux sphères musicales. On a entendu dans les rues des œuvres qui étaient jouées dans des milieux effectivement de préservés de la haute société, qu'on a entendu donc répandues. On a entendu effectivement un certain nombre de compositeurs qui se sont intéressés beaucoup aux musiques populaires. Donc ça a permis des jonctions, des ponts de plus en plus conséquents.
Thank you.
Nous venons d'écouter le troisième mouvement de Alcotts, extrait de la sonate pour piano numéro 2 de Charles Ives, interprété par Jack Gottlieb au piano. Guillaume Kosmicki, alors ça, c'est votre choix, bien sûr, ce matin dans la matinale, Charles Ives, mais c'est aussi une pièce qui figure dans votre livre, qui est quand même un livre incroyablement érudit, Musique savante de Debussy au mur de Berlin, qui vient de sortir aux éditions Le Mot et le Reste, parce que dans votre livre, c'est donc une réflexion sur les musiques savantes, mais vous, à un moment donné, il y a une phrase de vous qui, à mon avis, est importante. Vous dites, plus que tout, le XXe siècle connaît une diversité stylistique jamais rencontrée dans l'histoire de la musique, proprement vertigineuse. Et en fait, votre livre, c'est pas tant sur les musiques savantes depuis l'an 800 que sur ce mystérieux XXe siècle.
Absolument, oui, oui. C'est vraiment donc un focus sur le XXe siècle, un focus qui sera d'ailleurs suivi d'un deuxième tome, parce que je m'arrête en 1962, tellement d'ailleurs la diversité est grande déjà hein, sur ces quelques années du départ. Mais cette diversité, elle est due à plusieurs facteurs. Il y a plusieurs moments dans l'histoire de la musique où on assiste effectivement à un moment où les compositeurs vont aller dans tous les sens, hein, toucher à tout, essayer des pistes qui seront parfois sans issue, d'autres qui vont donner des choses absolument fabuleuses. Ouais. Mais c'est des moments justement où le langage musical déjà arrive à la fin d'un cycle. Le romantisme, c'est vrai, débridé hein, des compositeurs du siècle précédent, a totalement libéré les paramètres musicaux, a totalement permis donc par cette individualité libérée donc que la société bourgeoise finalement a promulgué, a permis de briser les structures, d'aller très 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 loin dans l'aventure musicale, et finalement on est arrivé tellement loin que ce langage ne tenait plus, les structures ne tenaient plus, et à partir de là, on a un petit peu papillonné, cherché dans tous les sens à trouver de nouvelles pistes. Ça, c'est la première raison, elle est déjà arrivée dans l'histoire, mais la deuxième raison aussi qui est assez fondamentale, c'est que on est dans un siècle de crise aussi sans précédent. Il y a des cicatrices dans le XXe siècle qui sont des cicatrices béantes, horribles, des guerres mondiales, des génocides, des choses abominables qui ne feront jamais plus voir le monde de la même manière, et l'humanité et la place de l'homme dans le monde, ça c'est une évidence. Et puis la troisième chose que je donnerais pour expliquer aussi cette diversité, eh bien c'est la révolution de l'enregistrement. Sans précédent. On n'a jamais entendu autant de musique différente. On n'a jamais pu les mettre au même plan à ce point-là. On était obligé de passer par l'interprétation. On était obligé d'écouter des choses finalement dans un milieu assez restreint, dans son petit milieu. Et avec le disque, avec la radio par la suite, eh bien, on a pu entendre des musiques du monde entier et découvrir des choses extrêmement surprenantes qui ont finalement fusionné avec des manières, des gestes des compositeurs.
Alors le XXe siècle, il est marqué aussi par une sorte d'extrémisme, c'est-à-dire toujours plus loin, toujours plus dissonant, toujours plus bruitiste. Et puis aussi ce qu'on vient d'entendre, Charles Ives.
Absolument. Alors Charles Ives, il est un peu dans plusieurs domaines. Hein. Il va aussi très très loin dans la dissonance. Mais ce Charles Ives, je l'ai retenu parce que il est peut-être le premier compositeur américain hein, en tant que tel. C'est la première fois qu'on entend cette nouvelle nation hein, qui est toute récente. On va dire, malheureusement, si on compte pas ces populations indiennes qu'on a massacrées hein, bien sûr dans les siècles précédents. Mais cette nation qui s'est fondée à peine depuis un siècle et demi à ce moment-là, eh bien, elle va s'inventer une musique. Et Charles Ives, le premier, crée une sorte de bande-son pour l'Amérique. Comme le jazz, d'ailleurs, qui naît à peu près au même moment, c'est un melting pot. La musique américaine ne pouvait être qu'un melting pot. Donc, dans ce petit extrait qu'on vient d'entendre, on avait des petits bouts de la cinquième symphonie de Beethoven, le pop-pop-pop-pom qu'on entend. On avait une hymne religieuse aussi qui se fusionnait avec ce papapapam, on avait plein de petits extraits, un peu de ragtime, un peu de tout, un vrai patchwork, un vrai mélange comme ça, que Charles Ives expérimente dans la plupart de ses œuvres, hein, quitte à faire des dissonances, pourquoi pas. Ici, c'était beaucoup plus spirituel, mystique, parce qu'il fait référence en fait à une philosophie transcendantaliste à laquelle il adhère beaucoup, celle de Emerson, celle de Alcotts, celle de Thoreau, hein, à laquelle il est tout à fait sensible et qu'il intègre complètement dans cette sonate.
Thank you. Nous écoutons un extrait du premier mouvement du concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg, interprété par Isabelle Faust au violon, l'orchestre Mozart sous la direction de Claudio Abbado. Guillaume Cosmiki, dans votre livre Musique savante, qui vient de paraître aux éditions Le Mot et le Reste, il y a donc aussi ce concerto à la mémoire d'un ange. Pourquoi ?
Eh bien, j'ai choisi de mettre cette œuvre de Berg. J'ai mis aussi Schönberg et Webern, qui sont ces deux acolytes qui constituent donc cette nouvelle école viennoise si particulière, si marquante pour les langages du XXe siècle, parce que Alban Berg a utilisé le langage de son maître et ami Schönberg, le dodécaphonisme sériel, qui est un mot qui fait toujours un peu froid dans le dos qui fait frémir. Simplement, il l'a utilisé, comme on vient de l'entendre ici, d'une manière très personnelle, très particulière, qui est profondément expressive, profondément emplie d'émotions. Ce Alban Berg a toujours essayé de l'appliquer en fait à un langage qui, malgré tout, sonnait encore un peu tonal, rappelait les langages du 19e siècle, langage romantique. Il n'a pas réussi à s'en détacher, et c'est d'ailleurs un vrai travail d'équilibriste qu'il a mené dans la plupart de ses œuvres, à partir du moment où il emploie ce langage un petit peu extrême, pourtant qui peut ouvrir la porte à l'abstraction la plus débridée. C'est ce qu'a fait Webern, bien sûr, dans ses différentes œuvres. Eh bien, lui, il le fait toujours avec cette expression très sensible, très intime, très personnelle. Et là, dans ce cas particulier, ça ne peut être que sensible, étant donné qu'il l'a écrit, c'est la dernière œuvre de sa vie. C'est une commande. C'est un violoniste, Krasner, qui lui a commandé cette œuvre et qui ne croyait absolument pas que ce langage, d'ailleurs, de décaphonique pouvait ouvrir la porte à quelque chose de sensible. Il lui a répondu de manière magistrale, évidemment, avec quelque chose de très, très, très profondément sensible. Mais il était lui-même profondément éprouvé par la disparition de Manon Gropius, qui était la fille de Alma, ex-Alma Mahler.
Alma Mahler et Walter Gropius. Oui.
Voilà, c'est ça, d'un deuxième mariage avec Walter Gropius, le père du Bauhaus. Et cette fille venait de disparaître. Ça avait profondément ému donc le compositeur, qui en fait a répondu à cette douleur par la composition de ce concerto.
Guillaume Cosmiki, les ennemis du XXe siècle, ceux qui disent que la musique s'est arrêtée avec Mozart, enfin d'autres disent que ça s'arrête avec Beethoven, certains vont jusqu'à Wagner.
C'est dommage. Voilà.
Ces gens-là disent que la musique du XXe siècle a, en quelque sorte, divorcé d'avec l'émotion. Est-ce que vous pensez que la quête de l'abstraction est compatible avec l'émotion ? Est-ce qu'une œuvre contemporaine peut émouvoir, à votre avis ?
Eh bien, l'émotion, c'est ce qu'on retire de son écoute des œuvres, notamment. Et il se trouve que, simplement, pour prendre mon expérience personnelle, je crois que c'est le mieux qu'on puisse éprouver quand on cherche à parler de tout ça, j'éprouve parfois des profondes émotions en écoutant des musiques extrêmement abstraites. Et de toute façon, chaque musique a un peu sa fonction, évidemment, même plus qu'un peu. Chaque musique a une fonction, et cette fonction diffère selon les esthétiques qu'on aborde, mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours un sens, il y a toujours un rapport à l'histoire qui fait qu'on peut toujours trouver un sens à ces musiques, les plus abstraites. Il y a toujours une cause, il y a toujours une explication là derrière. Et c'est vrai que parmi les langages les plus abstraits, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une certaine école, un certain groupe de compositeurs assez extrémistes dans les propos, je pense à Boulez, je pense à Stockhausen qu'on est en train d'écouter en fond, ces compositeurs étaient profondément traumatisés par le conflit qu'ils avaient vécu dans leur adolescence, dans leur tout jeune âge, et leur réponse à cette horreur, à cette boucherie, a été de tenter de partir d'une table rase, de tenter de reconstruire un monde en reconstruisant une musique. D'où cette musique tellement particulière, tellement abstraite. Eh bien ça, c'est de l'émotion vécue par rapport à quelque chose qu'ils ont éprouvé au plus profond d'eux-mêmes et qu'ils ont appliqué dans la naissance d'un langage musical. Donc évidemment qu'il y a de l'émotion.
Alors là, c'est un extrait que vous nous offrez, Guillaume Cosmiki, ce matin, de Kreuzspiel de Karlheinz Stockhausen, interprété par l'ensemble Ives. Et là, vous nous dites, c'est une musique pour moi émouvante. Alors, je suis d'accord avec vous. Dans votre livre Musique savante de Debussy au mur de Berlin, donc là, vous avez choisi de partir de 1882 jusqu'en 1962. Hein.
Oui.
Et donc, vous nous offrez, au fond, une introduction. Je pense que c'est vraiment un livre utile pour ceux qui ne connaissent pas, je tiens à le dire. C'est pas du tout un livre, vous savez, ces livres écrits dans un langage incompréhensible. C'est pas du tout ça. C'est véritablement une initiation à ces musiques, au fond, plus qu'aux musiques savantes, aux musiques du XXe siècle.
Oui, oui. Et puis, je le fais au travers du prisme de l'histoire qui est très importante dans le fil conducteur hein, de l'ouvrage. Parce que chaque esthétique, et des esthétiques très différentes hein, que j'aborde dans le livre, chaque esthétique est reliée toujours à un contexte historique, à un contexte social et économique qui finalement... Pour moi, hein, c'est une évidence, la fait naître et la diriger un petit peu, hein, la orienter.
Et je précise que c'est sous la forme de disque, c'est-à-dire qu'il y a une longue introduction, vous nous expliquez ce que c'est que les musiques savantes, et puis ensuite, en fait, vous nous proposez d'écouter des disques, enfin, ou en tout cas de lire ce que vous écrivez sur ces disques. Au fond, ce sont des incitations à découvrir des musiques qu'on ne connaît pas nécessairement, comme celle que vous nous faites entendre maintenant et qui n'est pas dans votre livre. Alors, qu'est-ce
non,
que c'est ?
Pas celle-là. Ben, ça, c'est une improvisation pianistique et machine, ordinateur, de Nicolas Kant. Donc c'est un pianiste à l'origine, pianiste de jazz. C'est aussi un ami avec lequel j'ai parcouru il y a un certain temps les free parties.
Ah.
On a joué ensemble, on a fait
vous avez dansé jusqu'à l'aube.
Absolument, puis on a fait du live ensemble, on a joué sous le nom Ocosystem. Et il a suivi son chemin de musicien et c'est un projet expérimental assez intéressant où il mélange donc un piano, un vrai piano acoustique avec un ordinateur qui est posé à côté du piano et il sample le piano en direct, il le triture, il le mélange tout en le jouant. C'est une vraie improvisation et c'est de ce point de vue-là quelque chose qui est tout à fait en accord avec l'esthétique d'aujourd'hui.
Ben, je vous remercie beaucoup d'être venu ce matin, Guillaume Cosmiki. Votre livre s'appelle Musique savante de Debussy au mur de Berlin 1882-1962, donc ça vient de sortir aux éditions Le Mot et le Reste. Merci encore et on va se quitter avec cette œuvre de Nicolas Kant.
Merci
beaucoup. Au revoir. Un petit extrait de Improvisium 1.1, donc de Nicolas Kant, c'était Nébuleuse mécanique. Il est 8h40, on va maintenant retrouver Jean-Baptiste.